Cruzimea europejskie.
Cruzimento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe pour une émission quelque peu différente des précédentes puisque nous avons réuni 6 eurodéputés français. Ils siègent évidemment dans 6 groupes différents au Parlement européen. Et pour éviter la cacophonie, vous allez découvrir leur point de vue sur la marche de l'Europe en 2 débats qui réuniront à chaque fois 3 d'entre eux. 2 débats en une seule émission et 2 thèmes pour cette nouvelle séquence. Le Brexit, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier dernier, mais applique encore les règles de l'Union européenne jusqu'au 31 décembre 2020. Dans le cadre d'une période dite transitoire qui aurait dû permettre de négocier la relation future de la Grande-Bretagne avec le continent. Or, le temps passe et les négociations sont au quasi point mort. Et puis, le plan de relance de 750 milliards d'euros initié par les 27 avec la Commission européenne, c'est le fer de lance de l'Union pour relancer une économie européenne entrée en récession avec la pandémie du Covid, mais sa mise en œuvre patine. Nous avons rejoint par téléphone, Covid oblige, Geoffroy Didier, Parti Populaire Européen en France, Les Républicains, Pascal Durand, Renaissance Renew, c'est le groupe où généralement siègent les députés La République En Marche et Modem, Emmanuel Morel, Gauche Unitaire Européenne et en France, Gauche Républicaine Socialiste. Et puis, dans le deuxième débat, nous aurons Didier Cormand, Les Verts, Europe Écologie Les Verts, Aurore Laluc, Alliance des Progressistes Socialistes et Démocrates en France, Place Publique, et Jérôme Rivière, Identité et Démocratie en France, Rassemblement National. Et bien sûr, nous rejoindrons au cours de cette émission Sacha Michel de Courrier International. Pour ce premier débat, j'accueille Geoffroy Didier, Parti Populaire Européen, Les Républicains, Pascal Durand, Renaissance, Renew, et Emmanuel Morel, Gauche Unitaire Européenne, Gauche Républicaine et Socialiste. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Avant de débuter notre débat, un mot sur la situation du Parlement de Strasbourg, c'est aussi le nom du Parlement Européen, mais depuis le mois de mars, les sessions plénières ne se déroulent plus à Strasbourg du fait du Covid. Est-ce un danger mortel pour le Parlement de Strasbourg? Je commence. Allez, l'ordre alphabétique. Geoffroy Didier, Les Républicains.
Je crois et je suis très préoccupé parce que Strasbourg est la capitale de l'Europe, capitale symbolique, puisque c'est le lieu de la réconciliation franco-allemande. Et nous considérons aujourd'hui qu'il est urgent de pouvoir respecter les traités, malgré les contraintes sanitaires, en nous réunissant à nouveau à Strasbourg. Je sais qu'il y a plusieurs lieux de travail. Il y a Strasbourg, il y a Bruxelles, auquel nous sommes évidemment très habitués. Il y a aussi pour certains fonctionnaires Luxembourg. Je connais aussi le débat récurrent selon lequel nous devrions tous nous réunir dans un même lieu. Je dis chiche, si nous devions tous nous réunir dans un même lieu à l'avenir, ça devrait être Strasbourg.
Pascal Durand, sur ce thème de Strasbourg, même point de vue que Geoffroy Didier? Pour Renew, Renaissance.
Le même point de vue, le même point de vue. C'est-à-dire que si on veut avoir une lecture inquiète de la situation, nous savons qu'il y a au sein du Parlement un certain nombre d'eurodéputés qui vont et de fonctionnaires d'une manière générale qui vont faire la pire des choses, c'est-à-dire instrumentaliser une crise sanitaire dramatique pour essayer de porter atteinte à, la double activité à la fois à Bruxelles et Strasbourg, et en essayant d'éliminer Strasbourg. Après, la lecture que j'essaye d'avoir avec la majorité des députés qui m'entourent, c'est de dire, bon, on est dans une situation exceptionnelle, et que dès que l'on pourra le faire, c'est-à-dire le plus rapidement possible, on reprenne nos activités dans la capitale, que effectivement Geoffroy Didier a raison de qualifier d'européenne, qui est le siège du Parlement, le lieu politique de la démocratie, Strasbourg.
Emmanuel Lorraine, sur ce même sujet, ce serait grave si le Parlement européen quittait Strasbourg au profit de Bruxelles?
Moi je pense qu'il faut vraiment une mobilisation générale, à la fois des parlementaires français, mais au-delà, des médias, des citoyens, pour que Strasbourg reste le cœur battant de la démocratie européenne, et je rejoins mes collègues, je pense que s'il devait y avoir un siège unique, eh bien chiche, faisons-le à Strasbourg, ça serait à la fois logique et politiquement une bonne chose pour l'Europe et pour la France. Parce que quand même, on est des députés européens français, et on est là aussi pour défendre les intérêts de notre pays.
Merci pour ce point de vue sur le Parlement européen dont le siège de Strasbourg est de plus en plus menacé, en tout cas, c'est évidemment une affaire à suivre. Le Brexit, les Britanniques ont voté il y a plus de 4 ans, mais ils appliquent encore toutes les règles de l'Union européenne dans le cadre d'une période dite de transition qui aurait dû servir à définir les relations post-Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Or, à 2 mois du vrai départ des Britanniques de l'Union européenne, les négociations sont au quasi-point mort et la perspective d'un départ des Britanniques sans accord est une hypothèse plausible. À Bruxelles, comme à Londres, chacun se dit prêt à rechercher un compromis. Pour les Européens, le plus important, c'est peut-être, c'est sûrement de garantir l'accès des eaux britanniques aux pêcheurs européens. Elles sont très poissonneuses, ces eaux. Et pour les Britanniques, avoir peut-être et sûrement le meilleur accès possible au marché intérieur. Alors, chacun se dit prêt à rechercher un compromis. C'est vraiment le cas? Vous y croyez vraiment? On va reprendre le même ordre alphabétique. Geoffroy Didier, les Républicains.
D'abord, par souci de pédagogie vis-à-vis de nos auditeurs, je voudrais quand même leur rappeler que le Brexit a bien eu lieu. Il a fallu attendre longtemps pour que la décision populaire et souveraine soit mise en œuvre, mais depuis le 1er février dernier, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe et il n'y a plus de députés européens britanniques.
C'est une bonne chose ou pas?
Moi, je regrette le Brexit, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on respecte aussi la volonté populaire. C'est la raison pour laquelle j'étais contre le fait d'inviter les Britanniques à revoter. Une fois qu'ils ont voté, il faut respecter et mettre en œuvre leur décision. Ce que je constate, c'est que si l'accord de retrait est juridiquement contraignant, Boris Johnson ne le respecte pas. Et heureusement que face à lui, l'Union européenne est aujourd'hui unie, déterminée et très ferme. Nous avons face à nous un dirigeant britannique qui réalue et adia, va dans tous les sens, perd parfois sa crédibilité. On l'a vu notamment, par exemple, avec sa loi sur le marché intérieur qui remettait en cause l'accord de retrait, notamment sur l'Irlande. Et puis, il y a évidemment, vous l'avez souligné, tous ces marins pêcheurs auxquels je pense, évidemment de France, mais aussi de Belgique, des Pays-Bas, de l'Irlande ou du Danemark, parce qu'il faut quand même savoir que 40% des poissons pêchés en Europe sont britanniques. Mais en même temps, 70% de la pêche britannique est exportée en Europe. Donc, les destins des pêcheurs britanniques comme des pêcheurs européens sont liés et nous devons absolument trouver une solution pour protéger nos pêcheurs. J'irai d'ailleurs dans quelques jours les voir à Étaples et à Boulogne-sur-Mer parce que nous devons nous mobiliser pour eux face au Royaume-Uni qui veut absolument renégocier les accès à leurs eaux territoriales chaque année.
Pascal Durand, les Européens estiment qu'il faut qu'un accord de libre-échange soit conclu avant la fin du mois. Ça laisse très très peu de temps.
Alors ça laisse très peu de temps. Moi, je partage beaucoup de remarques qui viennent d'être faites par Geoffroy Didier. Je tiens quand même à dire que la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est-à-dire ces 4 ans plus ou moins perdus, sont directement liés quand même, et il faut le rappeler, au contexte de mensonges dans lequel un certain nombre de dirigeants britanniques, Monsieur Farage, mais Monsieur Johnson à l'époque, également partenaire de cette logique du Brexit, ont mis la Grande-Bretagne et les citoyens britanniques dans une situation absolument terrible. C'est-à-dire qu'ils leur ont dit, on va reprendre la maîtrise, on va reprendre la souveraineté, nous n'avons plus besoin de l'Union européenne. La réalité, c'est que ça fait 4 ans qu'ils sont totalement tétanisés et bloqués, parce qu'ils savent très bien que perdre pour eux le marché intérieur est une catastrophe absolue. Et donc, n'oublions pas que ce sont les personnes qui nous ont mis, et qui ont mis notamment les citoyens britanniques dans cette situation, qui actuellement sont au pouvoir. La réalité, et Geoffroy Didier a eu raison de le rappeler, on a des liens tellement forts en termes d'échanges commerciaux et économiques qui sont séculaires entre le continent et l'île britannique, que, bien entendu, il faut qu'on trouve une solution. Donc, on est tous persuadés qu'il faut trouver une solution. Après, ne soyons pas naïfs. Nous avons une difficulté majeure qui est la situation irlandaise. Et cette situation irlandaise, dans laquelle il n'y a pas de frontière à l'intérieur d'une entité économique, alors qu'une partie serait dans l'Union et l'autre partie n'y serait pas, pose et va poser de vrais problèmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, actuellement, il y a une procédure engagée contre la Grande-Bretagne.
Emmanuel Morel, ce n'est pas moi, mais c'est Sacha Mitchell de Courrier International qui va vous poser la prochaine question.
Jusqu'où l'Union européenne doit-elle aller dans les concessions, selon vous, pour éviter une absence d'accord avec le Royaume-Uni à la fin de l'année?
Emmanuel Morel, gauche républicaine socialiste.
Oui, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a un choix souverain du peuple anglais, il est respectable. Il y a des négociations qui sont compliquées, c'est même parfois un casse-tête épouvantable, mais ça l'est surtout parce que les Anglais négocie de façon très erratique et surtout maximaliste. Ce qui apparaît quand même...
Un peu en amateur, hein, un peu en amateur, c'est une impression qu'on a en tout cas.
Non, moi je dirais pas en amateur, c'est juste qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Et Monsieur Johnson, il dit les Anglais sont fair play, mais enfin ils ne sont fair play que quand ils gagnent. Le principal risque, je vais vous dire, il y a la question de la pêche, qui est évidente, mais ça vient d'être rappelé, mais il y a autre chose. C'est le risque, c'est pas tellement un hard Brexit, c'est un dumping Brexit. C'est-à-dire, moi je pense que le Royaume-Uni essaye de jouer la carte du no deal pour accroître de manière agressive ses quelques avantages compétitifs via le moins-disant social, fiscal, environnemental. Et c'est ça la vraie difficulté pour nous, et je pense que l'Europe, elle doit être intraitable. Peut-être aussi d'ailleurs que finalement le Brexit doit être une opportunité pour nous, Européens, pour repenser notre modèle commercial, pour défendre davantage nos emplois, nos entreprises, nos savoir-faire. C'est pour ça que je pense que finalement la période qu'on vit, à la fois pandémique, Brexit, dérèglement climatique, ça nous invite à repenser complètement la politique commerciale de l'Union européenne, d'être un peu moins naïf, parce que nous l'avons beaucoup été ces dernières décennies.
Oui, c'est d'ailleurs un peu le thème de la commission d'Ursula von der Leyen, qui se veut géopolitique, alors que la commission précédente, celle de Jean-Claude Juncker, se voulait déjà politique. C'est-à-dire que Emmanuel Morel, qu'on devient quand même un peu moins, nous les Européens, moins naïfs. Voilà, est-ce qu'on le devient vraiment ?
Non, alors je vais vous dire, il y a des paroles, et les paroles en effet montrent une inflexion théorique, mais la réalité c'est qu'on attend les actes. Parce que la Commission dit on va être moins naïf, on va essayer de réguler un peu le commerce international, et en même temps, elle ne cesse de négocier des accords de libre-échange tous azimuts avec des pays très lointains.
L'accord du Mercosur est bloqué tout de même.
Le Mercosur est bloqué, mais enfin la Commission négocie par exemple un accord avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie en ce moment. Et c'est quoi le but ? C'est importer davantage de lait et de viande ovine depuis la Nouvelle-Zélande, alors que l'Europe connaît une crise de surproduction laitière. Vous voyez, c'est totalement absurde. Et en termes climatiques, franchement, faire venir des marchandises de pays qui sont à 15 000 km de l'Europe, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça n'a pas de sens. Donc la réalité, c'est que Mme von der Leyen fait des beaux discours, mais on attend les actes. Et pour l'instant, les actes, notamment en matière commerciale, ils sont pas là.
Jean-François Didier, qu'est-ce qui serait pire finalement ? Un mauvais accord avec les Britanniques ou pas d'accord du tout ?
Non, l'objectif est de parvenir à un accord, ne serait-ce que pour protéger nos intérêts, les intérêts, je disais, des pêcheurs, de tous ceux qui font commerce avec la Grande-Bretagne, mais pour rebondir avec ce que vient de dire Emmanuel Morel, ce qui nous arrive et ce qui arrive avec le Brexit est bien justement le fruit de la naïveté dont l'Union européenne a fait preuve depuis de nombreuses décennies. Parce que la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni est en réalité celle d'une Europe que nous avons acceptée pour un pays d'être à la carte. Et nous avons eu tort. Et je pense que la sortie de le Royaume-Uni doit aussi nous faire réfléchir sur les éventuelles entrées au sein de l'Union européenne. Je crois qu'il faut clairement qu'il y ait des règles du jeu, que nous arrêtions avec l'élargissement de l'Union européenne, que nous appuyions sur pause pour réformer l'Europe de l'intérieur, et nous savons, Pascal Durand, Emmanuel Morel et moi-même, combien nous avons à faire et à mener comme combat pour réformer l'Europe, mais arrêtons de l'élargir. Quand je vois, par exemple, que contrairement à ce qui est dit par Emmanuel Macron, la Turquie est toujours, en réalité, officiellement candidate, puisque le processus d'adhésion n'a été que suspendu, n'est pas abandonné définitivement. Il y a encore...
Dans les faits, c'est tout comme, je crois, Didier.
Non, justement, vous savez, la politique, c'est aussi une affaire de symboles et de décisions. Et je pense que nous avons tout intérêt à être clairs, fermes et précis vis-à-vis de notre partenaire turc, qui doit rester un partenaire, et vis-à-vis de nos concitoyens. Parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas utiliser des discours d'une apparente fermeté d'un côté, et de l'autre, en fait, ne faire que suspendre et non abandonner définitivement le processus d'adhésion. Mais avec une conséquence financière, c'est qu'aujourd'hui, chaque année, 900 millions d'euros d'argent public sont financés auprès de la Turquie au titre des aides de pré-adhésion. Ça, ce n'est pas normal, et l'Europe est malade d'elle-même, de son inertie, de son manque de courage.
Pascal Durand, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot sur le Brexit, ou nous passons directement au plan de relance et c'est vous qui commencerez ?
Non, je voudrais surtout pas qu'on on déplace le débat. Le débat qui est celui du rapport avec la Grande-Bretagne et le débat qui a été posé par Emmanuel Morel, à savoir est-ce que c'est un moment pour se redonner une force, pour repenser la souveraineté européenne et pour essayer de reconstruire la relocalisation des emplois, etc., qui sont les vrais problèmes qui se posent, avec le problème mineur de la question turque qui pour le moment est totalement bloquée et qui sert comme ça d'épouvantail, mais qui n'a vraiment, aucun intérêt par rapport à la crise que nous vivons actuellement. Voilà, et aux crises que nous vivons actuellement.
Voilà, on en reste là pour le Brexit. On va passer au plan de relance. Le plan de relance de 750 milliards, il a été adopté en juillet par les 27 chefs d'État à l'issue d'un Conseil européen mémorable qui a duré 4 jours et 4 nuits. Et il a depuis un peu de mal à être mis en œuvre. Un plan de relance commun, financé par un emprunt commun, ce qui implique évidemment à terme une dette commune, et c'est une petite révolution. Alors, si l'on veut qu'il soit efficace et qu'il relance effectivement l'économie européenne en récession, il ne faut pas trop tarder et les obstacles s'accumulent. Première difficulté, faut-il accorder ces fonds de relance européens en fonction du respect de l'état de droit? Et il y a évidemment deux pays dans le collimateur, la Pologne et la Hongrie. Est-ce que les Européens doivent être fermes sur cette point de blocage, à savoir on ne peut donner des fonds que à des pays qui respectent l'état de droit, et ce n'est pas le cas ni de la Pologne ni de la Hongrie, Geoffroy Didier, pour les Républicains?
Sur le principe, oui. Encore faut-il que nous ayons une définition objective, une appréciation claire, unanime de ce qu'est l'état de droit et de ce qu'est son respect ou son irrespect. Et sur le principe, oui. Je voudrais quand même dire à nos auditeurs que ce plan de relance de 750 milliards vient s'ajouter à un autre plan, le plan d'urgence de 540 milliards d'euros. J'y suis évidemment favorable sur le principe au regard des difficultés que rencontrent nos concitoyens et tous les citoyens européens et toutes les entreprises. Mais il faut aussi quand même dire toute la vérité aux Français. Il faut leur expliquer que ces 750 milliards, c'est peut-être une évidence pour vous, mais ça ne l'est pas forcément pour tous ceux qui nous écoutent, ne tombe pas du ciel. L'argent public ne vient pas de nulle part. Il n'y a pas d'argent caché d'ailleurs au niveau européen. Et donc ces montants seront intégralement empruntés et donc intégralement remboursés. J'y suis favorable sur le principe une nouvelle fois, mais il faut bien être conscient du fait que nous dépensons de l'argent rapidement, puisque selon les termes du plan, cet argent devrait être dépensé d'ici fin 2024, mais nous ne commencerons à le rembourser qu'en 2028, et ce jusqu'à 2058. Ça veut dire que nos enfants et nos petits-enfants seront encore en train de rembourser ce que nous aurons dépensé 35 ans avant et en 4 ans seulement.
Alors d'ici là, Didier, il y aura peut-être des ressources propres à l'Union européenne. La Commission et vous, les parlementaires européens, y travaillez d'arrache-pied d'ailleurs.
Oui, mais votre réflexion est très juste. C'est, vous avez dit peut-être. C'est-à-dire qu'on dépense assurément, de manière certaine, 750 milliards d'euros, mais on ne sait pas aujourd'hui qui les remboursera, comment on les remboursera et quand on les remboursera. Avouez quand même que c'est dangereux et que là l'Europe épuise ses cartouches et brûle ses vaisseaux, et j'espère que nous n'aurons pas à subir dans 2, 3 ou 5 ans une crise nouvelle, puisque nous n'aurons plus d'argent, ne serait-ce que même à emprunter sur les marchés financiers. Donc ce qui nous arrive, c'est ça mon message, n'est pas anodin, pose des questions et nécessite une information exhaustive à l'égard de nos concitoyens.
Pascal Durand, c'est à vous. Faut-il ou non être ferme à l'égard de ces pays qui ne respectent pas l'état de droit, comme la Pologne et la Hongrie, dans l'attribution des subventions de ce plan de relance?
Vous avez mis le doigt sur deux sujets absolument majeurs de ce grand plan de relance. D'abord, dont je veux encore une fois saluer à quel point il est historique. C'est-à-dire que on est dans une phase qui n'avait jamais été mise en œuvre, qui est celle d'une véritable solidarité européenne. On est en face, évidemment, d'une crise exceptionnelle, mais la réponse a été, pour une fois, en tout cas, sur la mise en place d'un schéma de solidarité européenne et du fameux intérêt général européen dont je parlais tout à l'heure, elle a été présente et elle est là. Après, vous l'avez dit, il ne faut pas que cet argent arrive sans aucune condition et qu'il soit totalement dilapidé en dehors du respect des valeurs et des buts de l'Union européenne. Ça veut dire que oui, bien sûr, il faut le conditionner au respect des règles de droit, et je comprends que Geoffroy Didier soit dans une situation un peu délicate, puisque M. Orban et son parti sont membres de son groupe, et je sais à quel point c'est difficile d'avoir à gérer cette question-là. Donc je comprends que la question doive être posée, mais clairement, l'Union européenne doit maintenant arrêter ses dérives. On le voit en Pologne avec les LGBT, on le voit en Hongrie avec les cours de justice, on le voit... Enfin bon, bref, il faut arrêter ses dérives sur l'état de droit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, et là, je veux être très 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 clair, le plan de relance n'a de sens sur une logique européenne qu'à partir du moment où il s'appuie sur des ressources propres. Il y a, sur les 750 millions, plus de 350 qui seront des prêts aux États. Donc cela, on n'en parle pas, puisque les États devront les rembourser in fine. Mais on a une grande partie qui va porter sur des sommes nouvelles. Et donc, il ne faut pas toucher au budget européen, parce que le budget européen est un budget qui est déjà faible, hein, moins de 1% du PIB européen. Il faut donc avoir des ressources propres. Nous en disposons potentiellement de très importantes. Il y a la taxe sur les transactions financières qui est encalaminée depuis 2008, mais il y a également la taxe sur les GAFAM. La taxe sur les GAFAM, on sait que des entreprises comme Apple ou autres payaient 0,5% d'impôts en Irlande. C'est insupportable. Nous devons maintenant arriver à faire en sorte que ces nouvelles ressources soient des ressources européennes qui permettent enfin de relancer le projet européen et de financer à la fois des investissements futurs et à répondre aux urgences du moment, notamment les urgences sociales et environnementales. Voilà.
Emmanuel Morel, qui peut prendre le risque de bloquer ce plan de relance, Emmanuel Morel, gauche unitaire européenne?
Moi, ce que je vois, parce que on parle d'un accord historique, ce qui est historique, c'est la crise. C'est-à-dire qu'on est en train d'être confronté à une des pires crises que l'Europe ait connue depuis très longtemps, on peut même dire depuis 1929. Et je trouve que le plan, de ce point de vue-là, est un peu décevant. D'abord, à mon avis, c'est trop peu, puisque même Thierry Breton, commissaire européen, avait estimé à 1700 milliards le choc de relance qui permettait de remettre l'économie européenne sur les rails.
Alors si on tient compte des rachats de la dette de la Banque Centrale Européenne, on arrive quand même au-delà de 1500 milliards.
Oui, mais je vais vous dire, il y a un autre problème, c'est que c'est trop lent. Parce que on parle, vous le dites, d'abord ça patine, et puis surtout on parle de décaisser de l'argent jusqu'en 2024, ça me semble pas assez rapide. Mais surtout, moi je trouve que c'est pas assez imaginatif, hein, parce que sur les ressources propres, on aurait pu aller plus loin très vite. La taxe sur les transactions financières, le dispositif et les prêts, c'est juste qu'on a des États membres qui bloquent. L'ajustement carbone aux frontières, on est en train d'y travailler, mais là aussi on pourrait aller plus vite. Et puis je note aussi un certain nombre de contradictions. Par exemple, on veut relancer l'économie européenne, mais on réduit les montants alloués aux programmes d'innovation et de recherche, alors que c'est fondamental pour préparer l'avenir. On dit que on veut protéger l'économie européenne qui en a bien besoin, et en même temps on supprime les montants alloués au fonds de soutien pour renforcer les entreprises dans la compétition mondiale. Donc moi je suis un peu déçu là-dessus, je le suis d'autant plus que il y a quand même un double jeu de bonneteau. Le premier, c'est que le budget européen a de nouveau servi de marge de manœuvre et qu'on a un montant qui est très loin des exigences du Parlement européen et surtout des besoins pour les prochaines années pour les Européens. Je pense notamment au second pilier de la PAC ou même au programme de santé EU for IS qui disparaît complètement alors que on connaît quand même une situation sanitaire et sociale catastrophique. Puis je rappelle enfin que pour la France, et c'est ce qui m'inquiète presque le plus, hein, pour la France, c'est un peu un jeu de dupes parce que nous, on va participer à la solidarité, c'est bien normal, mais en face, on a des États comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et même l'Autriche qui ont obtenu des rabais. C'est-à-dire que dans cette négociation européenne qui se voulait ambitieuse et solidaire, eh bien, la France a perdu sur tous les tableaux. Je le regrette parce que c'était l'occasion d'une ambition nouvelle. Et qu'en réalité, on est très loin du compte. Donc bon, on peut encore, à mon avis, améliorer les choses, mais pour l'instant, comme vous le dites vous-même, hein, c'est un peu encalminé. Il y a des États qui jouent pas le jeu, et c'est tout le problème d'une Europe élargie, et dont l'intérêt général n'est pas forcément évident à chaque fois. Quoi. C'est ça la difficulté.
L'Europe, c'est toujours un petit peu compliqué, même si nous sommes tous unis dans la diversité. Merci à tous les trois, Geoffroy Didier, Les Républicains, Pascal Durand, Renaissance Renew et Emmanuel Morel, gauche unitaire européenne, gauche républicaine et socialiste en France. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce premier des deux débats de Carrefour de l'Europe aujourd'hui.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Vous écoutez toujours Carrefour de l'Europe. Aujourd'hui, le débat européen avec 6 eurodéputés français représentant les différents groupes au Parlement européen. Pour ce deuxième débat, j'accueille David Cormand. Bonjour, les Verts, Europe Écologie, les Verts.
Bonjour.
Aurore Laluc, Alliance des progressistes socialistes et démocrates, j'ai tout dit. Et en France, vous êtes une eurodéputée place publique. Et Jérôme Rivière, Identité et démocratie en France, Rassemblement national. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Avant d'aborder notre échange autour des thèmes au cœur de l'actualité européenne, à savoir le Brexit et le plan de relance, un mot sur la pandémie du Covid-19 dont la deuxième vague atteint tous les pays de l'Union, même ceux qui avaient été épargnés par la première vague. Je pense notamment aux pays d'Europe centrale et orientale. Alors, rappelons-le, la santé n'est pas une compétence européenne, c'est une compétence nationale. Mais suite à la première vague, le maigre budget sanitaire et santé a quand même connu une petite augmentation. Un fonds de réserve de matériel, de masques, de gants, de choses comme ça a été créé. Et par exemple, c'est l'Union européenne qui a déjà précommandé les éventuels vaccins qui seront, espérons-le, proposés aux citoyens européens. Alors, la santé n'est pas une compétence européenne, mais est-ce que en ce domaine, l'Europe fait ce qu'elle peut ? Allez, on va prendre l'ordre alphabétique. David Cormand.
Bah, écoutez, oui, non, mais vous l'avez dit, c'est pas une compétence européenne. Après, on se rend compte que dans des situations de crise comme celle-ci, l'Union a du mal à se synchroniser. Elle a du mal à se synchroniser parce que ses pouvoirs, y compris diplomatiques, sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire assez faibles.
Diffus.
Oui, après, je vous entends dire qu'il y a des efforts de fait sur la recherche ou quoi, on va en parler après, mais au niveau du plan de relance et du budget structurel de l'Union, c'est-à-dire le MFF, le budget pluriannuel, on voit que les dépenses en matière de recherche, en matière de ce qu'on pourrait faire quand même sur la santé, ont connu des coupes. Donc on a ce sentiment un peu paradoxal sur beaucoup de mousse est faite autour de ce sujet, mais je suis un peu déçu sur les initiatives et le volontarisme de l'Union dans l'affaire.
Aurore Laluc, sur ce même thème, est-ce que l'Europe fait ce qu'elle peut en matière sanitaire et de santé ?
Oui, mais vous avez tout dit et David l'a parfaitement dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est pas une compétence, c'est pas une compétence. Et c'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que je me rappelle qu'au tout début de la crise sanitaire, on a tous été un peu choqués, oui, de voir que finalement on recevait, certains pays européens recevaient de l'aide sanitaire, notamment d'autres États. Et tout le monde a blâmé et critiqué l'Europe. Mais en fait, à chaque fois, l'Europe souvent la critique pour des compétences qu'elle n'a pas forcément. Et on lui reproche finalement de ne pas être là quand elle ne peut pas forcément être là. Et oui, ça manque le fait que ce ne soit pas une compétence européenne, parce qu'on aurait besoin de solidarité dans ces moments-là. On l'a bien vu, hein, et on a bien vu le choc pour les citoyens que ça a été par moments, le manque de solidarité entre États au moment des sommets intergouvernementaux, notamment sur les négociations entre autres de la relance et de l'aide d'urgence. Et oui, on aimerait bien sûr, enfin, moi j'aimerais en tout cas qu'il y ait une solidarité sanitaire et qu'on aussi on soit une force de frappe fédérale sur la question sanitaire. Je pense qu'on serait beaucoup plus fort et résilient tous ensemble à ce niveau-là. Donc à nous de continuer à nous battre pour qu'à un moment on finisse véritablement d'achever la construction européenne et que la question de la santé puisse être aussi une de ses compétences.
Jérôme Rivière, Rassemblement National, est-ce que vous partagez peu ou prou le point de vue de vos deux collègues, David Cormand et Aurore Laluc?
Sur certains sujets, c'est effectivement pas une compétence européenne. Dire l'inverse serait un gros mensonge. Je ne souhaite pas que ça devienne une compétence européenne. Le reproche essentiel que je peux faire à la Commission, notamment, c'était le manque d'empathie qu'a pu avoir notamment Madame von der Leyen dans son expression vis-à-vis notamment de l'Italie lorsqu'elle a été terriblement touchée. Moi, ce que je retiens de cette crise sanitaire importante, c'est qu'on a manqué un certain nombre d'opportunités, notamment au moment de la commande de vaccins. La commande de vaccins qui est un achat collectif et qui est une initiative que je ne désapprouve pas. Je regrette qu'on n'ait pas pris un certain nombre de mesures pour s'assurer que la production de ces vaccins était relocalisée en Europe. On a fait appel à des laboratoires dans des conditions qui, je le comprends, sont difficiles et compétitives avec le reste de la planète. Mais on n'a pas réussi à imposer le fait que ce soit l'occasion de relocaliser un certain nombre de productions, de recherches, et je trouve que ça c'est véritablement
Il
dommage.
Faut dire que pour l'instant ce vaccin n'existe pas, donc la fabrication est évidemment en devenir.
On n'a pas demandé à ces compagnies de prendre l'engagement de le faire en Europe, donc elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, et elles feront appel à la libre concurrence, vous verrez.
Nous verrons. Alors, le plan de relance, 750 milliards, il a été adopté en juillet par les 27 chefs d'État à l'issue d'un Conseil européen très long, 4 nuits, 4 jours. Un plan de relance commun, financé par un emprunt commun, ce qui implique évidemment à terme une dette commune. C'est une petite révolution au sein de l'Union européenne. Simplement, si l'on veut que ce plan soit efficace, eh bien, il faut qu'il soit mis en œuvre rapidement pour essayer de faire face à la récession qui fatigue et qui pèse beaucoup sur l'économie européenne. Mais les obstacles s'accumulent. Premier obstacle, faut-il accorder ces fonds, ces subventions et ces prêts en fonction du respect de l'état de droit et dans le collimateur et de la Commission et de bien des pays et du Parlement européen, en tout cas d'un assez grand nombre d'eurodéputés. Il y a deux pays dans le collimateur, la Pologne et la Hongrie. David, comment faut-il, oui ou non, et est-ce que c'est possible d'accorder ces prêts et ces subventions en fonction du respect de l'état de droit?
Écoutez, ça c'est une question, au risque de vous choquer, tout le monde est pour l'état de droit a priori. Le problème c'est que mon sentiment, le débat sur le MFF c'est pas celui-là. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu mettre dans le package de négociation du budget pluriannuel et du financement du plan de relance tout un tas de choses, dont la question de l'état de droit. Le problème c'est que pour avoir un deal au niveau de ce plan de relance et du budget pluriannuel, il faut l'unanimité des États. Et donc vous donnez, y compris aux chefs d'État de ces deux pays, beaucoup de pouvoir, alors que l'Union a l'opportunité, à d'autres moments, de mettre en avant la question de l'État de droit. Donc si vous voulez, dans ce combat légitime sur l'État de droit, je pense qu'on a situé au mauvais endroit le champ de bataille. Parce que là, en fait, on se met dans les mains de Orban et consorts, puisqu'ils ont un droit de veto, de fait, puisqu'il faut l'unanimité du Conseil, donc on leur donne un droit de veto sur des mesures qui les concernent et dont ils ne veulent pas. Donc je pense que c'est quand même un problème, je vous dirais, stratégique. Alors que le vrai enjeu dont on devrait parler par rapport à ce plan de relance et à son financement, c'est quid du volume du budget pluriannuel qui va financer le plan de relance. Aujourd'hui, les États-nations, c'est-à-dire le Conseil, refusent d'augmenter à hauteur de ce que va coûter le remboursement de ce plan de relance le budget de l'Europe. Deuxième question pour moi qui est fondamentale, c'est la question de nouvelles ressources, qu'on appelle les ressources propres. Pourquoi ? Si on veut financer des politiques européennes, aujourd'hui, c'est financé à 75% par des dotations des États, donc à des impôts qui pèsent sur les populations des différents pays de l'Union. Or, l'enjeu, ça serait de développer des nouvelles ressources sur ceux qui, aujourd'hui, peuvent échapper à l'impôt. C'est la taxe sur les transactions financières, c'est la taxe carbone aux frontières, c'est la fiscalité des GAFAM que les États à hauteur de leur pays ne peuvent pas mettre en œuvre parce qu'il y aurait de l'évasion fiscale, il y en a déjà. Que si c'est fait au niveau de l'Union, vous avez des ressources pérennes qui s'attaquent à ceux qui aujourd'hui échappent à l'impôt et qui financent des politiques à la fois de relance et le budget pluriannuel. Le combat aujourd'hui sur le plan de relance au niveau de son financement et le budget pluriannuel, c'est moins la question, même si elle est fondamentale, de l'état de droit, que les vraies questions de gros sous, à savoir qui paye l'impôt pour quel type de solidarité.
Aurore Ladue, ce n'est pas moi qui vais vous poser la prochaine question, c'est Sacha Mitchell du Courrier International. Le Courrier International, c'est le partenaire historique de Carrefour de l'Europe sur RFI. Sacha Mitchell.
L'alliance objective entre les frugaux, opposés à la dette commune, et la Pologne et la Hongrie, qui contestent le conditionnement des versements de subventions au respect de l'état de droit, peut-elle encore faire capoter l'accord de juillet ?
Aurore Ladue.
Ouais, c'est effectivement un vrai sujet. Il y a des grandes craintes, hein, quand même. Hein. Tout ça n'est pas fait à mon sens.
Ce serait quand même un peu suicidaire de la part des Polonais et des Hongrois, quand même.
C'est suicidaire de la part de tout le monde. Mais après, si l'extrême droite était parfaitement rationnelle et avait une vraie ligne sur certains sujets, ça se saurait, très sincèrement. Et on le voit bien avec le Brexit, dont on va peut-être parler tout à l'heure. C'est pas des gens, pour le coup, au pouvoir en ce moment, qui ont une vraie ligne sur certaines choses. Ce ne sont pas des gens sérieux. Ils sont juste sérieux, par contre, effectivement, dans leur haine multiple. Donc, quand on regarde en ce moment ce qui se passe, il y a effectivement de vraies inquiétudes, parce qu'il y a effectivement ce mélange entre les frugaux qui veulent certains retours.
Alors, les frugaux, il faut rappeler leur nom, c'est les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède, le Danemark, rejoints par la Finlande.
Exactement, qui ont vraiment un problème avec la conception de la solidarité et je serais tentée de dire là, même la conception de l'économie et de la macroéconomie, de la façon dont ça fonctionne pour de vrai l'économie. Ça, c'est quand même un sacré vrai sujet. Et effectivement, David l'a parfaitement expliqué, la question sur l'état de droit. Et tout ça, ça fait que, oui, on peut s'interroger sur... Mais quand est-ce que ce plan de relance va vraiment commencer et est-ce qu'il va vraiment commencer un jour? Et là, je serais tentée de dire, parce que David a parfaitement balayé le sujet, je serais tentée de dire que heureusement qu'on a la Banque Centrale Européenne quand même. Et on voit qu'à chaque fois qu'en fait, on a quelque chose d'à peu près efficace qui fonctionne au niveau européen, qu'est-ce que c'est? C'est les institutions qui certes ne sont pas parfaites, et c'est le cas de la Banque Centrale Européenne, qui certes ne mène pas forcément les meilleures politiques du monde, et c'est le cas de la Banque Centrale Européenne. Moi, je préférais que par exemple, ces politiques de quantitative easing soient...
Alors, en français dans le texte, s'il vous plaît, Aurore
Laluxe. En français dans le texte, c'est en gros, c'est le fait que la Banque Centrale Européenne va se mettre à racheter des obligations d'État sur le marché.
De la dette d'État.
De la dette pour pouvoir les financer indirectement parce que ça lui est interdit, malheureusement, de pouvoir financer directement les États, ce qui nous coûterait beaucoup, beaucoup moins cher que de passer à chaque fois par des marchés financiers. Bon, bah, cette politique-là, par exemple, elle n'a pas de conditionnalité sociale, elle n'a pas de conditionnalité environnementale, donc c'est vraiment dommage. Parce que le seul outil qu'on a finalement, qui a une capacité d'action rapide, et une capacité d'action de très grande ampleur parce qu'elle n'est pas bloquée en permanence par le jeu assez insupportable et de l'intergouvernementabilité, eh ben c'est la Banque Centrale Européenne. Et je crois qu'on arrive toujours au même sujet à la fin des fins, c'est-à-dire que nous n'avons pas fini de construire cette zone euro, ni même l'Union Européenne, et qu'il est, d'un point de vue tant politique qu'économique, absurde, et voire même... normalement quasiment impossible d'avoir une monnaie sans avoir un budget conséquent. Et c'est ça la vraie bataille. Et David Cormon avait raison, il faut absolument qu'on ait des ressources propres. Quand on a le PIB de l'Europe, quand on a ce niveau de compétences, quand on a cette taille, ce nombre, ces millions d'habitants, on ne peut pas avoir un budget inférieur à celui de la France. C'est pas possible.
Alors, Donc,
à un moment,
place publique,
il va falloir vraiment progresser et faire un saut fédéral, à mon avis, sinon on ne s'en sortira pas au niveau de la crise.
On a compris votre propos. Jérôme Rivière, est-ce que la difficulté de mettre en place ce plan de relance vous inquiète, vous, au nom du Rassemblement National, ou pas?
Moi, j'aurais voulu revenir sur l'analyse que faisait David Cormon des difficultés, parce que je partage l'analyse, je ne partage pas les solutions, mais je pense que, d'une part, c'est quand même assez surréaliste de voir, effectivement, alors vous savez que le Rassemblement National ne partage pas du tout les accusations qui sont portées contre la Hongrie et la Pologne sur l'état de droit. C'est un débat, mais comme c'est curieux de voir se greffer ce débat au milieu d'un plan de relance, si on souhaite effectivement que des sommes sortent, demander à un État de voter des sanctions potentielles. Je ne comprends pas du tout la stratégie qui a été mise en place sur ce vote. C'est tout à l'heure, j'entendais dire que nous n'étions pas très rationnels. Excusez-moi de dire que je trouve que c'est totalement irrationnel.
Mais il est vrai que la Hongrie, si la Hongrie était candidate à l'adhésion à l'Union européenne, elle n'entrerait pas, elle ne pourrait pas, elle ne répondrait pas aux critères pour entrer, pour rejoindre l'Union européenne aujourd'hui.
Vous l'affirmez, je n'en sais rien, c'est hypothétique. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ils sont dans l'Union européenne et que dans le cadre de ce plan de relance, il faut obtenir leur accord. Il faut obtenir l'accord de la Pologne. Donc c'est un peu surprenant de dire à des gens, vous savez, vous êtes de sales types et on va vous sanctionner durement, mais en même temps, il faudrait vraiment que vous votiez pour nous. Donc ça, c'est la première chose qui me surprend. Et la deuxième chose, c'est les ressources propres. Alors je suis contre les ressources propres, parce que les ressources propres, ça veut dire un impôt européen. En revanche, je pense qu'il existe effectivement...
Un impôt, c'est différent d'une taxation. Une taxation aux frontières, c'est pas...
Attendez, ça, c'est de la sémantique. La réalité, un impôt ou une taxe, c'est à la fin les citoyens qui payent plus... auprès d'institutions, que ce soit l'État ou les institutions européennes, pour que cet argent soit dépensé en son nom. Donc c'est une forme d'impôt. La réalité, c'est que aujourd'hui, il existe néanmoins des grandes entreprises, je pense au GAFA, effectivement, qui échappent à cet impôt. Et ça, c'est ce que l'Union européenne a permis et a organisé. Et contre ça, on doit effectivement lutter. Ce que je souhaite, en revanche, c'est que sur un certain nombre de taxes qui pourraient être menées sur ce type d'entreprise, ce soit renvoyé vers les États,
qui puissent légitimement utiliser ces sommes pour les besoins et les décisions qui sont nationales. Donc, l'analyse, je pense que sur un certain nombre de choses, on peut partager l'analyse. Après, sur la façon de voir, il y a une vision fédéraliste ou même, parfois, elle est même pas fédéraliste, c'est une vision qui impose un État centralisé à Bruxelles. Parce que l'idée n'est pas d'avoir des États-Unis d'Europe avec des États qui pourraient avoir une politique et coopérer ensemble. C'est vraiment une vision centralisée en Europe, à Bruxelles, qui est le projet qu'on voit germer tout doucement autour de ce saut qui est fait par la première mutualisation d'une dette.
David, comment vous vouliez réagir sur le plan de relance, mais vraiment d'un mot, car il faudrait quand même qu'on gagne un peu de temps pour le Brexit. Très vite alors.
L'intérêt d'avoir des taxes sur, par exemple, les transactions financières ou les GAFAM, c'est que on affaiblirait, du coup, la dotation des États au budget de l'Union. Donc, moi, j'entends quand M. Rivière dit « c'est une taxe en plus et il faudrait le rendre... » Alors, il est d'accord si on le rend aux États, c'est ça qu'on ferait. Puisque l'ensemble des recettes nouvelles qu'on aurait, ça serait autant de dotations des États qui seraient affaiblies. Donc, en fait, c'est du gagnant-gagnant, cette affaire.
Bon, on aura l'occasion de reparler, évidemment, de ces ressources propres de l'Union européenne, car c'est évidemment une idée qui monte très très fort, tant au sein de la Commission qu'au sein du Parlement, et à un moment ou à un autre, il faudra bien que le Conseil prenne position. Un mot sur le Brexit. Les Britanniques ont voté il y a plus de 4 ans, mais ils appliquent encore toutes les règles de l'Union européenne dans le cadre d'une période dite de transition qui aurait dû servir à définir les relations post-Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Or, à 2 mois du vrai départ des Britanniques de l'Union européenne, les négociations sont au quasi point mort et la perspective d'un départ des Britanniques sans accord est une hypothèse plausible. Or, Luc, il faut craindre une absence d'accord où finalement ce ne serait pas si dramatique que ça, j'entends, pour les Européens, car évidemment les échanges entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sont évidemment très défavorables au Royaume-Uni qui exporte beaucoup vers l'Union européenne alors que l'Union européenne apporte peu du Royaume-Uni.
Oui, tout à fait. La situation actuelle, elle est à vrai dire assez stupéfiante, mais pas très très surprenante. C'est-à-dire qu'on est habitué en permanence à ces espèces de
va-et-vient, de ping-pong.
De va-et-vient de Boris Johnson qui fixe lui-même des deadlines et des dates butoirs et tout d'un coup il raconte que ce n'est plus possible, etc. Donc, on va voir ce que ça donne. Là aussi, il y a quand même une vraie crainte effectivement de no deal. Et en fait, le vrai sujet, c'est même pas... C'est pour l'Europe et le Royaume-Uni, effectivement, parce que les pertes de PIB à venir sont quand même conséquentes pour eux, hein, en termes de richesse, ça va avoir de réelles conséquences. Mais c'est aussi sur politiquement tout ce que cela signifie, en fait, dans nos démocraties, et dans des vieilles démocraties en plus. Si vous voulez se rendre compte que finalement, un David Cameron a lancé cette idée... a fait le référendum sur cette idée. L'ancien premier ministre britannique, alors de manière totalement politicienne, que les éléments de langage qui ont été, les arguments qui ont été utilisés lors de cette campagne de Brexit étaient totalement fallacieux, qu'ils ont d'ailleurs été avoués comme tels, et qu'on se retrouve aujourd'hui face à des gens qui ne sont pas sérieux, qui ne représentent finalement pas vraiment l'intérêt général. Et nous, en face, on a un bon négociateur, très sincèrement, en la personne de Monsieur Barnier, qui est sérieux et qui essaye vraiment de faire le travail. On est en face, moi je trouve, de personnages qui sont très problématiques pour la démocratie, parce qu'ils ne sont pas sérieux, parce qu'ils ne sont pas respectueux. Et c'est plus, si vous voulez, même au-delà de la question du Brexit, au-delà de la question de l'Europe, de sortie, pas sortie, c'est sur la question du populisme et la façon dont ça met en danger nos démocraties et l'avenir même des citoyens. Je trouve que c'est vraiment tout à fait dramatique, en fait.
Jérôme Rivière, est-ce qu'il vaut mieux un mauvais accord, car il reste 2 mois et de toute façon ce ne sera pas un accord complet que les Européens pourraient signer avec les Britanniques, ou pas d'accord du tout pour que le Brexit soit la fameuse réalité du Brexit? Brexit means Brexit, comme le disait Theresa May en son temps.
Écoutez, moi j'entendais Mme Laluc nous expliquer que c'était la faute des populistes, la faute des peuples. Il n'y a jamais de remise en question des actions qu'on mène. Ce que je peux voir, c'est que Michel Barnier elle n'a pas souhaité négocier d'une façon qui permettait de trouver un accord. Je regrette qu'il
n'ait pas d'accord. Il avait un mandat des 27 pays.
Je regrette qu'il n'ait pas d'accord, notamment pour les pêcheurs français, parce que ça va poser d'immenses difficultés. Ce que je crois, c'est qu'en fait, nous sommes dans une période où la situation se débouclera après le 3 novembre. Pourquoi je dis
pourquoi
ça?
Pourquoi le 3 novembre?
Oui. Parce que si le prochain président des États-Unis est Donald Trump, le Royaume-Uni est assuré d'avoir un contrat qui lui sera relativement favorable et qui lui permet de prendre le large, si je puis dire, avec l'Europe, et donc de nous dire il y a pas de deal quoi qu'il arrive et on se débrouillera. Si en revanche vous avez Joe Biden qui est élu président des États-Unis, il l'a fait savoir, il ne sera pas du tout sur cette même vision. Et donc, on peut imaginer que le gouvernement britannique, à ce moment-là, reconsidère probablement la façon dont il négocie avec l'Union européenne. Mais encore une fois, ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas entamé des négociations de bonne foi. Le projet européen a été de l'Union européenne, et cette Union fédéraliste ou centralisée à Bruxelles a été mis à mal par le Brexit, le fait qu'un peuple avait décidé de sortir de cette Union européenne. Et derrière, il y a eu une sorte de vengeance des institutions qui lui disaient bah, il va falloir payer, on n'est pas satisfait, vous mettez à mal cet idéal que nous avions en tête, et donc bah, vous en souffrirez. Quelque part, j'ai souvent entendu dire il ne serait pas normal que les Britanniques s'en sortent bien, ce serait la démonstration qu'il existe une vie en dehors de l'Union européenne. Souvenez-vous du président Juncker expliquant qu'il n'existait pas de chemin démocratique en dehors des traités. On voit bien que là, il y a une intransigeance et un jusqu'au-boutisme qui nous conduit à quelque chose qui risque d'être mauvais pour les deux parties.
David Cormon, vraiment en quelques mots, est-ce que les négociations menées par les Européens avec les Britanniques, c'est faire payer les Européens? Charles Michel, le président du Conseil européen, dit Londres veut accéder au marché unique européen tout en s'écartant de nos normes et réglementations. Quand cela l'arrange, ça s'appelle avoir le beurre, l'argent du beurre et la suite.
Non, mais il y a plusieurs sujets. Un, il y a le sujet...
Brièvement, David Cormon.
Oui, j'ai très bref. Sur l'accès au marché, et ça, cette affaire-là, attention, parce qu'on fait des accords de libre-échange avec le Canada, par exemple, dont on pense par ailleurs ce qu'on pense, hein, moi j'en pense le plus grand mal, ça serait paradoxal d'avoir des exigences supérieures par rapport à la Grande-Bretagne. Parce que, quoi qu'on en fasse, la Grande-Bretagne est en Europe. Deuxième sujet, les pêcheurs. Parce que la question de la pêche, elle est fondamentale. La plupart des zones de pêche dont bénéficient les pêcheurs européens autres que britanniques sont dans les eaux britanniques. Et donc, s'il n'y a pas d'accord, il va y avoir une concurrence des pêcheurs entre eux sur des zones de plus en plus petites. Et ça, c'est un vrai sujet. Et si on devait en arriver là, il faudrait que l'Union interdise les pêches massives, notamment des flottes hollandaises, pour que ce qui reste de réserves halieutiques soit préservé. Et enfin, il y a la question géopolitique. Et là, c'est sûr que, attention de ne pas insulter l'avenir et de ne pas être dans une démarche qui rendrait, parce que Boris Johnson n'est pas éternel, il ne restera pas Premier ministre pendant des siècles. Et donc, il ne faut pas créer un précédent où, pendant des décennies ensuite, il y a une distance qui se crée entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, parce que voilà, on a besoin, ils font partie de l'Europe, et on a besoin d'avoir des bonnes relations avec eux. Il y a eu cet événement du Brexit, il y a eu ce qui s'est passé ces dernières années, mais il y a aussi la perspective historique, et donc il faut être vigilant là-dessus et ne pas voilà dans une démarche qui ferait croire à tort ou à raison que l'Union veut sanctionner le peuple britannique. C'est pas l'état d'esprit dans lequel nous sommes, et c'est l'état d'esprit dans lequel nous devons être.
Merci David Cormon, Les Verts, Europe Écologie Les Verts, Aurore Laluc, Alliance des Progressistes Socialistes et Démocrates, Place Publique, et Jérôme Rivière, Identité, Démocratie, Rassemblement National. Merci à tous les trois, merci à tous les six d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier, avec la participation de Sacha Michel de Courrier International. Pourrez écouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres, le podcast via le site RFI.fr. On reste en contact via Facebook et Twitter, Daniel Desescales, que vous soyez à Paris, Strasbourg, Bruxelles, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir. RFI.